Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de « Elles ont osé », le nouveau podcast des Échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos Entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette séquence nostalgie de mes années universitaires à Bordeaux avec Beniat Gagi Poussou & Co, une belle équipe de rugby qui m'a laissé plein de beaux souvenirs et quelques chansons dans la tête, même si c'est vrai que chanté par nous, le classique « Beber es un grand placer » donnait plutôt ceci. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Boire est un grand plaisir, avec modération quand même, et je vous invite à me suivre dans les locaux d'une microbrasserie en Bretagne.
Une histoire de copains qui voulaient changer de vie. Restaurateurs et menuisiers, David et Nicolas sont devenus brasseurs, avec un début de carrière très artisanal.
Elle ne représente encore que 5% d'un marché estimé dans le monde à 300 milliards de dollars, les brasseries artisanales ou microbrasseries connaissent une nouvelle jeunesse, portée par l'engouement d'une partie des consommateurs. J'ai presque envie de dire « à chaque bière son village » ou « à chaque village sa bière ». Les microbrasseries ont réveillé le marché de la bière tenu ces dernières années par quelques grands acteurs. Je vous en parlerai bientôt dans la story. Mais avant, je voulais vous proposer de me suivre en Bretagne, sur l'île de Groix, en face de l'Orient, où s'est installé il y a près de 2 ans Jean-Pierre Renaud, président de la bière de Groix.
Donc, là, vous avez l'orge brute qui a été moissonnée en juillet dernier, qui est ici parce que l'orge, en fait, va subir une transformation. Et cette transformation doit être faite après 3-4 mois de dormance. Donc, on stocke, là, tout l'orge est ici.
Il y a combien de kilos, là ?
Là, il y a 17 tonnes et on a 10 tonnes dans une autre zone.
Je démarre la visite guidée de la petite brasserie située un peu à l'écart du bourg dans le quartier du Grip. La brasserie voisine avec la conserverie Groix et Nature, connue pour ses rillettes de poissons et de crustacés. C'est un gros hangar gris, sur la façade, le logo de la bière de Groix. Devant moi, une centaine de gros sacs remplis de grains d'orge prêts à se transformer en bière. En ce matin de novembre, les locaux ne débordent pas encore d'activité. Jean-Pierre Renaud triture avec gourmandise ses céréales et poursuit son explication.
Et donc ça va nous permettre de fabriquer toute la bière pour l'année prochaine. Sachant que cette année, on fait la bière avec l'orge que l'on a récolté l'année dernière.
Il faut laisser l'orge travailler un peu.
Il y a la première transformation que l'on doit faire, c'est ce qu'on appelle le maltage, parce que l'orge en tant que tel ici, c'est un grain d'amidon. Il y a rien dedans. Mais vous savez, la nature est vraiment très bien faite, parce que cette orge là, elle contient tous les germes de la vie. Si je laisse cette orge dans l'humidité, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va germer comme une pomme de terre qu'on mettrait à la cave. Et donc, elle va recréer un plan. Et donc, le secret du brasseur, c'est d'utiliser en fait cette dynamique de la vie pour pouvoir faire notre bière. Et donc, on fait la première opération, s'appelle le maltage. Le maltage, ça consiste à commencer la germination, parce que dans le germe, on va trouver tous les éléments qui permettent la transformation de l'amidon en sucre, en protéines et autres. Et par contre, il s'agit d'arrêter très vite la germination, parce que si on ne l'arrête pas, ben on va faire des plants d'orge, et on n'est pas ici pour faire des plants d'orge, on est ici pour faire de la bière. Et donc pour arrêter la germination, on donne un coup de chaud très rapide, très fort, de l'ordre de 300 degrés, ce qui va arrêter la germination. Alors à titre anecdotique, le coup de chaud peut être plus ou moins chaud, et en fonction de cette température-là, on va avoir, si le coup de chaud n'est pas trop important, ce qu'on appelle un malt pâle, et on va faire de la bière blonde. Et plus on va avoir un coup de chaud important, plus le grain va caraméliser, ce qui va nous permettre de faire soit des bières ambrées, soit on peut aller même jusqu'à la torréfaction et faire ce qu'on appelle des bières stout, comme les bières Guinness.
Je laisse maintenant derrière moi les sacs d'orge pour entrer dans une nouvelle pièce, la plus impressionnante de cette brasserie artisanale.
Donc là, on vient d'aborder le cœur névralgique de la brasserie, puisqu'on est dans la salle à brasser, qui se décompose en fait de deux éléments différents, ce qu'on appelle le bloc chaud, qui concerne la première transformation du grain pour faire un mousse sucré, et puis le bloc froid qui est la cape de fermentation où on va prendre le mousse sucré pour en faire de la bière.
Là, ce sont des grandes cuves.
Alors oui, la dimension des cuves est assez importante. Le bloc chaud, en fait, la salle à brasser en tant que telle, c'est une salle à brasser de 20 hectolitres, c'est-à-dire qu'une unité de brassage, ce qu'on appelle un brassin, fait 20 hectolitres, c'est-à-dire 2000 litres. Et puis, ces brassins sont transférés dans les cuves. Et ici, vous avez des cuves donc de 40 hectolitres, de 4000 litres. C'est-à-dire qu'on met deux brassins à l'intérieur. Donc, vous avez deux cuves de 4000 litres et deux cuves de 2000 litres.
C'est un gros investissement.
Oui, c'est un investissement relativement important sur une salle à brasser comme celle-ci, qui a été faite depuis le sol. C'est-à-dire qu'on a fait le bâtiment et tout. C'est un investissement d'à peu près 1,3 million d'euros sur à la fois le bâtiment et les installations.
Donc c'est pas rien.
C'est pas rien, mais d'un autre côté, moi j'ai souhaité pouvoir avoir un outil de qualité, parce que on a la capacité d'avoir une matière première qui est exceptionnelle, donc de pouvoir faire des produits qui sont à la fois des produits de qualité et reproductibles. Donc d'avoir un outil qui est digne de toutes les brasseries industrielles.
Il se passe des choses dans ces cuves de 4 mètres de haut, en inox. Ça malaxe, ça tourne, ça travaille, tout seul ou presque. Il y a bien ce bruit de fond comme dans la salle des machines d'un bateau moderne. Mais la salle de brassage est étonnamment calme. Jean-Pierre Renaud explique ce qui se passe à l'intérieur.
La première étape de notre savoir-faire, si j'ose dire, c'est de moudre le malt d'orge dont on a parlé tout à l'heure. Et cette orge donc moulue va être brassée. Là, c'est véritablement l'opération de brassage là, qui est en train de se passer. Vous voulez qu'on va monter?
Oui, d'accord.
Donc là, le grain est malaxé avec de l'eau. Et il se passe, c'est la magie de la vie là, que vous êtes en train de voir. C'est que ce grain qui était essentiellement de l'amidon, du fait de la présence dans le germe de toutes les matières qui nous sont nécessaires, ce qu'on appelle les enzymes, eh bien, l'amidon va se transformer en sucre. Et pour ça, eh bien, notre savoir-faire, c'est de monter en température. Il y a des paliers, vous voyez derrière les systèmes automatiques qui nous permettent de maîtriser en fait les différents paliers. Et chaque palier correspond à une transformation différente, soit pour faire des sucres, ce qu'on appelle des sucres fermentescibles, soit des sucres non fermentescibles qui vont faire plus de la rondeur de la bière. Et là, c'est notre savoir-faire. C'est-à-dire, à un moment donné, on va peut-être mettre un peu plus sur ce palier-là, un peu moins sur ce palier-là. Et en fait, on est en train de préparer la nourriture pour l'allure. Donc ça, c'est la première étape de notre métier.
Forcément, on ne le voit pas, mais enfin, on ne le sent pas, justement. Mais il y a des odeurs.
C'est la limite de votre reportage. C'est vrai qu'effectivement, il y a des odeurs qui sont très agréables, qui sont liés à la céréale elle-même.
Ça sent le pain chaud presque.
Exactement. C'est très proche des odeurs qu'on peut retrouver dans une boulangerie.
Le brassage va durer 1h30. Mais ce n'est encore qu'une partie du chemin avant la mise en bouteille. Les cuves sont reliées entre elles par des tuyaux plus ou moins gros. Une fois le brassage terminé, le liquide est transféré vers une cuve filtre.
La cuve filtre, en fait, c'est une immense machine à café, avec un plancher filtrant ici. Et l'objectif de cette phase, c'est de séparer la partie solide de la partie liquide. La partie liquide, c'est la partie noble qu'on va travailler après. Et puis la partie solide, c'est une matière qui a une certaine valeur nutritive, mais l'habitude des brasseurs, c'est de la donner au bétail, hein, parce qu'ils sont très friands de ça, en particulier les vaches adorent ça. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter en fait une contribution complémentaire en travaillant avec une pâtissière locale pour retravailler cette matière première et en faire des crackers pour la consommation à l'apéritif.
Les vaches vont être jalouses.
Bon, il en reste suffisamment.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est aussi ça, la brasserie.
Cette deuxième phase étant terminée, on va donc évacuer la partie solide, ce qu'on appelle la drèche, et puis on va revenir dans cette cuve dans laquelle on avait préparé le brassage pour cette fois-ci aromatiser la bière. Hein, c'est là le deuxième secret où on va mettre le houblon. Et donc le houblon, en fait, on va le malaxer à haute température, on va monter à 100 degrés aussi pour pouvoir stériliser le mou de telle manière à ce que la levure soit tranquille, qu'elle soit la seule à travailler, qu'il n'y ait pas d'autres germes qui viennent l'embêter. Donc c'est une dernière opération qui va avoir lieu pendant une heure. Et ensuite, quand cette opération est terminée, eh bien on va transférer, donc on va refroidir le mou, parce qu'il ne faut pas que la levure elle travaille à 20-25 degrés. Donc on va refroidir le mou pour le transférer cette fois-ci dans les cuves.
Il faut donner du temps au temps, disait Don Quichotte, et l'opération totale va prendre 8 heures. Une opération qu'il ne faut pas interrompre au risque de gâcher le produit.
C'est une opération non-stop. Là, c'est le produit qui commande et on est à sa disposition. La phase suivante, elle va être... On va faire travailler des milliards d'individus, puisqu'en fait, au moment où on va transférer le mou dans les cuves, on va ensemencer, ce qu'on appelle ensemencer, c'est-à-dire mettre de la levure. Et là va commencer la deuxième magie de notre métier, c'est la transformation de ce que l'on a préparé au brassage en gaz carbonique, en CO2, en arôme. Et c'est la levure qui, elle, va travailler. Alors en deux phases, il y a une première phase qu'on appelle la fermentation primaire, dans lequel la levure va se développer, va faire son premier travail, et puis la fermentation secondaire, qu'on appelle souvent la garde, qui, elle, va être plus longue et qui va permettre d'affiner en fait le produit pour que ça devienne de mou, on passe à bière. Hein.
À partir de quand on crée vraiment le goût de la bière ?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, mais c'est depuis le grain. C'est en fonction, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fonction des orges et du maltage que l'on a réalisé, on a un premier aspect qui va modeler la bière. Ensuite... Ah.
On change de séquence.
On change de séquence, voilà. Donc la deuxième chose qui va faire la qualité de la bière ou la particularité de la bière, c'est notre brassage et nos paliers de brassage. Ensuite, eh bien, c'est la fermentation et la conduite de la fermentation. Donc ce sont... Pour répondre à votre question, c'est à tous les stades du procédé que la bière et notre savoir-faire se développent. Voilà.
La phase de fermentation va durer, elle, 3 semaines. Il faut surveiller la transformation du sucre en alcool et en gaz carbonique. Il faut aussi réguler la température, un élément important, comme le révèle Jean-Pierre Renaud.
En début d'année, il y a maintenant la bière de mars. Or, c'est souvent aujourd'hui un élément marketing, mais... Il faut savoir que la bière de mars, elle avait une réalité chez les brasseurs parce qu'à une époque, on ne maîtrisait pas le froid comme là, on le maîtrise avec ses cuves. Et donc, on était soumis à la température, à température ambiante. Et donc, pendant l'été, les bières étaient souvent mauvaises parce qu'on ne maîtrisait pas les fermentations. Et puis, d'autre part, les maltes eux-mêmes, des conditions de stockage n'étaient pas forcément très bonnes. Donc, au cours de l'année... Les maltes, la qualité du malt avait tendance à se dégrader. Et moralité, le brasseur, quand il recevait les nouveaux maltes, puisqu'on les reçoit comme voilà en novembre, hein, la moisson a eu lieu en juillet, on a la dormance, le maltage, donc les maltes nouveaux arrivent en novembre-décembre, et c'est l'époque où on peut maîtriser la fermentation parce que la température extérieure est très bonne. Donc pendant cette phase, on faisait le travail à la fois de fabrication de la bière et puis de la fermentation. Et en mars, on arrivait avec la meilleure bière. C'était la bière d'excellence. C'était ce que le brasseur savait faire de mieux, quoi. Alors nous, on va réitérer cette tradition dans la mesure où nos maltes sont des maltes qui viennent de l'orge de Groix. Et donc, en mars prochain, on fera, c'est un scoop, mais on fera une bière primeur qui correspond aux premières orges qu'on aura retravaillées.
Vous faites deux moissons, c'est ça, hein, par an?
Alors, on fait deux moissons, oui, parce que la tradition brassicole est de travailler avec deux types d'orges, les orges d'hiver et les orges de printemps. Les orges d'hiver sont des orges que l'on sème avant l'hiver, et là, on vient de faire les semailles là, pour la nouvelle campagne, il y a 15 jours. Et donc, c'est une orge qui se met en dormance pendant toute la phase d'hiver et que l'on va récolter et moissonner au début juillet. Et puis, il y a des orges de printemps qu'on va semer, eux, au printemps, donc en mars, et que l'on va récolter plus tardivement, fin août. Et la caractéristique de ces orges est différente. Et c'est aussi, vous me parliez tout à l'heure du goût et où est-ce qu'on fait le goût, c'est aussi dans l'assemblage des différents types d'orges que l'on va trouver aussi des différences de profil de bière.
Durant ces semaines, le travail consiste aussi à goûter pour vérifier que tout se passe bien.
Donc là, c'est une bière ambrée qui est en phase de garde, hein, c'est-à-dire que la fermentation principale est terminée, mais elle n'est pas complètement terminée, c'est-à-dire que là, ce qui va vous surprendre, c'est que le gaz carbonique, encore, il n'y a pas tout le gaz carbonique que vous avez l'habitude d'avoir.
Je vais vous demander de tenir le micro.
C'est moi qui tiens le micro, alors.
Oh, elle sent le sucré.
Ah oui, celle-ci, oui. Donc c'est une bière ambrée. C'est-à-dire une bière ambrée qui est faite avec des orges qui ont été un peu plus le fameux coup de chaud dont on parlait tout à l'heure, qui permet en fait de caraméliser un petit peu les orges.
Un peu une couleur de miel. Hein.
Exact, exact.
Alors elle est comment?
Parfaite. Parfaite.
Elle ne fait pas très alcoolisée. Enfin, je dis ça parce que j'avais bu qu'une gorgée, mais...
Ah, c'est traître. Celle-ci fait quand même 6 degrés d'alcool. Hein. Mais du fait qu'elle est sucrée, en fait, vous avez tendance à avoir une bière de plaisir là, qui effectivement ne vaut pas en relief l'alcool, mais elle est quand même assez...
Deuxième cuve, deuxième dégustation. Il est à peine 11h du matin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour informer les auditeurs de la story?
Là, c'est de la bière blonde.
Oui, sa caractéristique, là, c'est que les profils d'orge que l'on utilise, on a parlé d'orge de printemps, orge d'hiver, donc là, on a un mix qui est différent de ce que vous avez vu là tout à l'heure, pour la lambrée. Ce qui fait que vous voyez, il y a une mousse beaucoup plus fine que ce que vous avez vu. Et puis, là, par contre, on a...
Je dirais presque de la chantilly.
Ah, ben, vous allez déguster, vous allez voir. Et donc ce qu'on a essayé de faire à travers ce produit blonde, c'est d'exacerber, si j'ose dire, le goût céréal. Et c'est une bière qui est peu houblonnée, mais on l'a houblonnée de telle manière à ce que l'amertume n'arrive qu'en fin de bouche. Alors je vous laisse la déguster, je reprends le micro alors.
Elle est plus pétillante,
oui,
un peu plus légère aussi.
Mais celle-ci,
non,
elle est terminée, hein, l'autre, ouais. Elle n'est pas complètement terminée, la garde n'est pas terminée. Bien sûr, alors celle-ci fait 5 degrés d'alcool, elle est plus légère. Et puis, je vous dis, là on a plus d'orge de printemps que sur l'ambrée.
Il faut toujours penser à boire avec modération, donc quand on est brasseur.
Ah ben, oui, oui, avec modération, avec plaisir, et surtout avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, au même titre qu'il y a des œnologues, il y a ce qu'on appelle des itologues, ZYTHO, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui se sont spécialisés dans l'appréciation de la bière. Et une bière, avant même de la déguster, d'abord elle se regarde. On regarde la mousse, on regarde la clarté, la brillance de la bière. On la sent, c'est-à-dire qu'il y a aussi une odeur qui est très particulière. L'odeur initiale, c'est une odeur qui est tout le travail de la levure et un peu du houblonnage. À titre d'information, quand votre verre est vide, vous avez une odeur qui est très différente, c'est l'odeur de la céréale. C'est ce qui reste. Et puis, après, il y a la dégustation, c'est-à-dire le palais qui lui-même va sublimer un certain nombre d'arômes qui ont été créés. Et donc, moi, j'ai toujours considéré la bière comme un voyage des sens, de tous les sens.
Un beau voyage en plein terroir breton. La bière sera ensuite conditionnée dans des bouteilles et étiquetée dans une autre salle de la brasserie moins bruyante. À 60 ans, Jean-Pierre Renaud n'en est pas à sa première expérience dans la bière, puisqu'il a démarré en 1983 dans une grande brasserie avant de travailler sur l'environnement pour le compte d'un grand groupe agroalimentaire. Puis il a créé une fondation avec un ami qui travaille sur la restauration des écosystèmes dans les pays du Sud, une démarche qu'il a voulu aussi appliquer à l'île de Groix.
J'habitais, pendant ce temps-là, j'habitais à Groix, c'était mon havre de paix en fait, et je me suis rendu compte que en fait, cette problématique du développement n'était pas forcément une problématique qui était exclusive des pays du Sud, et que même ici, on voit progressivement la terre disparaître. Et je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose sur cette île que j'aime, dans laquelle j'aime vivre. Et puis je me suis rappelé que j'avais un métier, qui était le métier de brasseur. Et surtout, j'ai appris à découvrir l'île d'une manière un peu différente que celle que je connaissais. C'est une île un peu extraordinaire par sa typologie géologique et climato. Géologique d'abord parce que, en fait, l'île de Groix est sur un socle, vous savez que la Bretagne est sur un socle granitique. Et en fait, ici, il n'y a pas de granit. Et on a recensé jusqu'à 50 minéraux différents. Et ces minéraux donnent à la terre des propriétés très particulières, qui font que cette terre était réputée comme une terre à céréales. J'ai retrouvé des textes qui disaient « blé de Groix, moulin de Blois, table du roi ». C'est-à-dire qu'on faisait du blé ici, pour le pain du roi Louis XIV, du roi de France.
Parce que ce n'est pas seulement une île de pêcheurs, hein. Il y a longtemps eu des agriculteurs sur l'île.
Exactement, c'est une île qui est aujourd'hui de 1200 hectares, où il y a encore 300 hectares cultivés, mais il y avait beaucoup plus de cultures, et en particulier la céréale. Hein. La céréale n'est pas quelque chose d'exogène, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps sur l'île. Et donc pourquoi cette céréale était aussi intéressante? C'est parce qu'en fait c'est lié à ce sol et la minéralité de ce sol. Et je m'occupe en même temps, je suis président de l'école d'agronomie de Montpellier, donc j'ai essayé de savoir quelles en étaient les raisons. Et en fait, je vous parlais du pain avec le roi de France, vous savez que souvent on parle de la bière comme étant le pain liquide. C'est quasiment les mêmes process. On a d'un côté une céréale, on a de la levure, on fait fermenter cet ensemble. Et donc la minéralité du sol se retrouve dans la terre et se retrouvant dans la terre se retrouve dans le grain. Et cette minéralité permet à ce moment-là de développer et de faire croître la levure d'une manière très particulière. Et le deuxième élément qui joue en faveur de cette île, enfin il y en a trois. Le deuxième élément c'est l'eau, puisque c'est un, là encore pour les mêmes raisons géologiques qu'il n'y a pas de granit. Il y a une faille qui fait qu'on reçoit de l'eau du continent, de l'eau douce du continent, qui passe sous la mer. Et ce qui avait d'ailleurs fait la grandeur de cette île, vous savez que c'est Groix, c'était le premier portonnier de France, parce qu'il y avait des conserveries. Et pourquoi il y a des conserveries? C'est parce qu'il y avait de l'eau douce. Donc cette eau douce, c'est le deuxième élément très très important pour la fabrication de la bière. Et le troisième élément, qui lui est climatologique, et pour revenir à la céréale, c'est que les précipitations sont très différentes du continent. Sur le continent, on est en moyenne à peu près à 1200 mm d'eau par an. Ici, on est à 650. Et cette répartition de la pluviométrie est très en faveur, en fait, là encore, de la croissance de la céréale, parce que on trouve beaucoup d'eau quand la céréale va être en phase de germination. Et quand elle mature, elle va trouver à ce moment-là un climato très sèche, qui fait que le grain va devenir très sec, et un grain très sec permet d'être moulu très très fin. Donc on avait ici tous les ingrédients pour faire de la bière, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire la conjonction en fait de ma passion pour la terre avec un projet de bière, en allant chercher des agriculteurs, vous savez qu'ici il n'y en a pas beaucoup, il y a 5 agriculteurs, pour développer justement ce concept de la terre vivante. Une terre vivante, en fait, ça fait des produits vivants qui font des hommes vivants, qui font des territoires vivants.
Et ils ont été faciles à convaincre ?
Assez facile. Oui, assez facile parce que, en fait, l'économie, enfin, la culture de la céréale en tant que culture de rente ici disparaissait progressivement par manque de compétitivité avec le continent. Donc, l'agriculture aujourd'hui est plutôt en train de s'orienter sur le maraîchage, sur l'élevage aussi, de telle manière à pouvoir avoir des ressources locales, vendables localement. Et donc, le fait de venir avec le projet bière permettait en fait de maintenir la céréale comme étant une culture qui va être utilisée directement sur le territoire. Et ça, c'est une particularité de la bière de Groix. Je crois que c'est même unique en France. C'est de produire, c'est-à-dire de brasser sur une île avec une orge qui est produite sur l'île.
L'eau vient de l'île,
l'orge vient de l'île, effectivement, et c'est brassé sur l'île.
Voilà. C'était important, cette dimension locale ?
Oui, tout à fait, parce que ça crée un lien économique très, très important, comme je le disais, de la terre jusqu'au consommateur, et ça génère de ce fait-là une activité d'emploi, une génération en fait, de services qui sont autour de la brasserie, et pour une île comme l'île de Groix, qui a 2300 habitants, c'est un élément important parmi les autres éléments qui sont en train de se mettre en place. Il y a d'autres structures économiques qui se mettent en place.
C'est combien d'emplois créés ?
Alors, c'est 5 emplois créés, hein, et aujourd'hui, c'est donc une production... Elle a une capacité de 2000 hectolitres. Alors 2000 hectolitres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une brasserie qui est dimensionnée pour un marché local, à la fois pour Groix et puis le Morbihan et la zone qui est la zone de reconnaissance de Groix. Pour moi, c'est important que, et pour répondre à votre question, l'aspect local soit très très bien appréhendé par le consommateur.
À 60 ans, c'est un peu dingue de se lancer dans un tel projet ?
Oui, alors c'est un peu dingue, mais je répondrai, il y a deux éléments qui sont sous-tendus à ça. Si on ne le fait pas à 60 ans pour montrer aux jeunes de 30 ans que c'est possible, je ne sais pas qui va le faire. Et pour moi, ce projet, c'est un projet de transmission. C'est-à-dire, c'est important de s'entourer de jeunes. Là, on vient d'embaucher un jeune brasseur, de telle manière à ce que la construction... Moi, je me suis donné en fait l'objectif de dérisquer ce projet-là de telle manière à ce qu'il puisse être développé d'une manière durable. Et le deuxième élément, c'est que quand on a 60 ans, souvent on a acquis un certain nombre de savoirs et de compétences, et là encore, les mettre à disposition de quelque chose auquel on croit, je vous parlais du développement à partir de la terre, c'était pour moi important de démontrer que c'était faisable, et pas simplement faisable dans les pays du Sud, mais aussi près de chez nous, c'était un point important. Et je rajouterais un élément essentiel, c'est qu'à travers ce projet-là, on a voulu démontrer qu'on savait en fait retravailler dans des conditions agricoles qui sont des conditions qu'on connaissait. Je dirais, de manière, nos anciens connaissaient ça, on appelle ça l'agriculture régénératrice. Ici, on laisse la terre. Parce que vous savez, en fait, la terre, si on la laisse travailler seule, elle a besoin de rien du tout. Elle est capable de s'auto-fertiliser. Alors donc, c'est des pratiques maintenant, on commence à appréhender. C'est pas de labour, un couvert végétal permanent, des rotations de culture pour que la terre puisse se stabiliser. On fait du semis direct et tout ça fait que on n'utilise plus d'intrants. Et donc ça, c'était pour moi aussi important de montrer... et d'aider en fait l'agriculture à montrer que c'était possible et qu'on pouvait faire le lien entre des pratiques agricoles et le développement d'une filière.
On parle de durable. Oui. Durable, pour que ça soit durable, il faut que ça soit rentable. C'est votre souhait ?
Alors bien sûr, c'est évident, c'est une composante majeure. La rentabilité, elle intervient par le fait de la localisation du projet. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, il y a pas mal de brasseries qui se développent et qui trouvent en fait leur champ d'intervention localement et durablement parce que, ben, par exemple, il n'y a pas de coût logistique important, on trouve de la main-d'œuvre locale. Enfin, ça permet effectivement de trouver, utiliser un mot barbare, un business plan qui tient la route sur une période relativement importante.
Merci Jean-Pierre Renaud de la brasserie de Groix pour m'avoir ouvert les portes de son entreprise et avoir eu la patience de me raconter sa passion pour la bière. On la retrouvera très vite dans la story pour évoquer le succès des micro-brasseries en compagnie d'un journaliste des Échos, Anthony Leduc, zytologue des Échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, qui n'a jamais de migraine, chargé de production d'édition et qui dispose d'un bon coup de fourchette, Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr, à consommer sans modération.
vous avez aimé cet épisode de La Story ? Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des Échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos Entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.